semaine, puisque ça, je crois que l'heure y est là. La semaine prochaine, eh bien, nous parlerons d'un sujet qui nous est très cher ici à Radio Libertaire, c'est l'abolitionnisme pénal. Donc, le titre du bouquin, c'est « Brique par brique, mur par mur, une histoire de l'abolitionnisme pénal ». Et ce sont trois auteurs et auteureux, Joël Charby, Chahine Maurice et Gwenola Ricordo. C'est paru aux éditions Luxe. Une évidence, je cite, « Les services que les prisons sont censées rendre ne compenseront jamais les torts qu'elles causent ». C'est un entretien avec Chahine Maurice. Et pour le cinéma, nous parlerons de Léon, de Andy Nation et Papu Cureto, et également de In Water de Aung San Suu. Mais voilà, très très bonne semaine malgré tout. Et bien sûr, comme d'habitude, eh bien, ne lâchez rien, tenez bon.
Je me souviens encore quand, à la suite d'une élection, j'avais dit que je ne retournerais plus jamais sur les terres de mon enfance en Picardie, parce que sur ces terres-là, c'était pêche, chasse et grosse tradition qui faisaient élection en tête. Et puis par la suite, je me suis souvenu aussi que je m'étais juré que je ne retournerais plus jamais sur les terres de mon enfance, parce que le Front National ou Rassemblement National, je ne sais plus à quel moment on en était, faisait 30% dans la ville dans laquelle j'étais né. Et je suis en train de me rendre compte que maintenant, c'est peut-être que je ne vais plus pouvoir aller au-delà de la zone 5 de mon passe Navigo, les terres de mon enfance s'étant étendues avec leurs boue brune. Et comme disent les goguettes dans leur chanson sortie hier, on a voté Macron pour éviter d'avoir le Rassemblement National au gouvernement, et finalement on va peut-être avoir les deux. Allez, quelques je me souviens quand même. Je me souviens de Autoportrait d'un artiste dénué de talent, dans un livre de Serge Brussolo. Je me souviens qu'Émilie et Cazem avaient conclu un accord. Elle lui donnait des cours de français le soir, et elle l'aidait à remplir ses papiers. Et lui, il lui donnait des cours de cuisine le week-end. L'histoire entre Émilie et Cazem ne s'est pas conclue par un mariage, mais par deux, chacun de son côté. Bah, tout n'est pas comme dans les livres, dans la vie. Je me souviens que visitant une école militaire, le président MacMahon avait dit « C'est vous le nègre, c'est très bien, continuez ». Sachant quand même que le nègre désignait en argot militaire le premier de la promotion. Le tout fut quand même repris dans « Bon baiser de partout », dans la première entrée en scène de l'adjudant Tiffris de Pointe-à-Pitre, Tiffris avec la voix de Claude Dassé. Je me souviens de René Binamé et des routes secours des Ludwig von 88, des Fils de Tepu, des Amis de ta femme, de Marcel et son orchestre, des Hurlements de Léo, de Taras Bulba, des Berruriers noirs, de Sergent Garcia, de Raymond et ses Blancs-Becs, d'Edouard Néné et les Princes de Bretagne, des Non-Tropos, des Négresses Vertes, de Joe Butagaz et ses Brûleurs, de Bernadette Soubirous et ses Apparitions, de La Souris Déglinguée, de Brassens Not Dead et des Ramoneurs de Menhir. Il y a quand même des noms qui claquent dans le domaine du punk. Je me souviens de, il y a plus d'un âne à la foire qui s'appelle Martin. Il paraît d'ailleurs qu'au Québec, on dit ça avec des chiens qui s'appellent Pitou. Je me souviens d'un voisin, trois rues plus loin de chez moi. Je le salue d'un signe de tête discret, chaque fois que je le croise. Alors que je le connais même pas, même son nom est indéchiffrable sur la boîte aux lettres. Mais je le salue juste parce qu'il me rappelle notre ancien pote Gérard. Et ce qui me surprend, c'est que lui me salue en retour. Qui est-ce que je peux bien lui rappeler ? Je me souviens d'avoir regardé un jour une vidéo d'un ancien élève dont j'avais retrouvé la trace parmi 1200 autres qui expliquait comment il conciliait sa foi chrétienne, son matérialisme scientifique et son travail chez un constructeur automobile. Bon, mal m'en a pris de regarder cette vidéo parce que pendant un mois, l'algorithme de YouTube, persuadé que j'avais eu une révélation, m'a proposé des chants religieux, des reportages sur les moines du Mont Athos et des extraits de Cato TV. Je me souviens que du coin de l'œil, la caissière du Lidl, tout en passant les articles, pip, devant son lecteur de code-barre, pip, et en rendant la monnaie, surveillait la mancharde postée devant la porte automatique et essayait de compter et deviner à distance le montant de ce que les clients lui donnaient. Avec son ticket de caisse à 27 articles, cette cliente a payé 47,80 €, dont 13 centimes me reviendront, disait la caissière, et elle va donner 10 centimes à celle qui tend la main. Je me souviens que, une fois sur trois, quand je passe rue des Rosiers, à cause de ma barbe et des pita falafel que je mange, il y a toujours un individu avec un chapeau chassidim, des papillotes, des téphélines pour m'aborder. « Bonjour, vous êtes juif ?» Prêt à m'offrir une Torah, un Talmud à lire et à prier. Et en général, il ne comprend pas ma réponse. « Non, et vous ?» Il manque d'humour. Je me souviens d'Étienne Pétri, de Jules-Louis Tripier, de François-Eusèbe Brun, des noms attrapés le long du monument aux morts, le long du Père-Lachaise, tous les morts de la guerre de 14-18. Je me souviens de Charles Fleurant, d'Armand Leclerc, d'Arsène Raveau. C'est pas vrai, j'ai copié ces noms en passant, mais une génération perdue, des gars de 20 à 30 ans, partis pour le front, qu'avait une mère, une épouse qui les attendait, pour rien, en 1914, et plus personne ne se souvient d'eux.
Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, tous les jours on parlera de la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, jamais tu n'oublieras la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, tous les jours on parlera de ceux, tous ceux que l'on Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, jamais tu n'oublieras tous ceux que l'on Gaza. Redis-nous donc l'histoire, histoire qu'on s'en souvienne, histoire de revenants, que jamais l'histoire ne revienne. Redis-nous donc l'histoire, histoire qu'on s'en souvienne, histoire de revenants, que jamais l'histoire ne revienne. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, Tous les jours on parlera de la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, jamais tu n'oublieras la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de ceux, tous ceux que l'on Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, jamais tu n'oublieras. Tous ceux que l'on Gaza. Si tu perds la mémoire, garde donc l'histoire. Si tu perds la mémoire, alors tu pourras bien voir. Si tu perds la mémoire, garde donc l'histoire. Si tu perds la mémoire, alors tu pourras bien voir. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras. Tous les jours on parlera de la bande de Gaza. Souviens-toi, souviens-toi, jamais tu n'oublieras, jamais tu n'oublieras Gaza.
Chanson de Basile Martin, extrait d'une chaîne qui s'appelle justement Les chansons de Basile, Gaza, sur le rapprochement que l'on peut faire sur ce nombre de fois où on a dit retenons les leçons de l'histoire, retenons 1945, retenons, etc. Et finalement, on continue à foncer droit dans le mur, la tête devant. Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques, une brochette de créatures autour des micros. Evelyne, je te laisse présenter le sommaire de cette émission.
Alors, aujourd'hui, bon, on a un sommaire un peu fourni, comme d'habitude. Donc, bonjour les auditrices, les auditeurs. Bonjour Jean-Marie Blanche, de l'autre côté, à 700 km, là, à Aise. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité Christian Laurent.
Bonjour.
Voilà. Pour son livre « J'ai la mémoire des planches » qui vient de paraître aux éditions de la librairie théâtrale. Il est accompagné d'ailleurs de son attaché de presse.
Éric Durand.
Éric Durand. Voilà. Et donc nous avons le plaisir aussi d'avoir, ben ça, vous les connaissez déjà, Sophie Mathieu et... On ne dit pas les noms de famille, hein, j'ai remarqué. Sophie et Michel, voilà. Et puis, nous attendons en deuxième partie, Guillaume Destrême, qui est déjà venu pour une pièce sous les ponts l'année dernière. Et là, qui vient pour un pamphlet de Jacques Prévert, écrit en 1936, où le pape est mis en mauvaise posture par Jacques Prévert. Voilà, ça s'appelle La crosse en l'air et c'est à l'Essaillon en ce moment, le mercredi et le jeudi. Voilà. Alors, on va commencer, hein, on va commencer avec Christian Laurent, pour J'ai la mémoire des. Alors, c'est joli d'ailleurs, hein. J'ai la mémoire des planches. C'est joli comme titre.
Oui,
c'est...
On a eu du mal à le trouver, mais voilà.
Ah bon?
Ah oui, oui, ça a été très difficile de trouver le titre, oui.
Ah bon?
Ah oui, 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 oui.
Alors, pour vous présenter, on va être assez bref, parce qu'on ne peut pas... vous avez quand même une carrière assez fournie. En fait, vous avez commencé à l'âge de 14 ans.
Oui.
Vous êtes né après-guerre.
Oui.
Alors, ce n'est pas la peine que je donne la date exacte.
Oh,
il n'y a pas de mal.
Le 28 mars 1948,
ah bon, d'accord.
À Montmartre.
Bon, on décline son identité, hein, voilà. Voilà, bon. À Montmartre, hein, vous êtes un poulebeau de la butte Montmartre.
Un poulebeau de la butte Montmartre, exactement.
Voilà. Donc, vous avez... alors justement, il y a une anecdote que j'ai lue dans le livre, qui a été d'ailleurs reliée par d'autres personnes qui ont lu ce livre... c'est que tout jeune, vous habitiez rue des Gardes, dans le 18e, oui. Hein, c'est près de la Goutte d'Or.
C'est. Oui, c'est à côté de la. Il y a la rue Mira, la rue Barbès-Rochechouart et Château-Rouge. Voilà, c'est dans ces coins-là.
Oui. Voilà, c'est pas les quartiers les plus chics de Paris. Hein.
Non, mais à l'époque, c'était. Disons qu'à l'époque, c'était un village. Hein. C'était un village, tout le monde se connaissait.
Ah oui,
c'était formidable.
Ah oui, d'accord.
Tout le quartier se connaissait. Au 14 juillet, les gens dansaient dans les cours, tout ça. C'était vraiment... Paris n'était pas du tout comme il est maintenant. Hein.
Ah oui, et la butte Montmartre non plus, alors?
Non, la butte Montmartre non plus. Le soir, on jouait dans les rues jusqu'à je ne sais pas quelle heure. On montait, on traînait nos galoches là-haut, au Sacré-Cœur.
Vous êtes en train de me raconter quelque chose qui date.
On jouait au jeu de piste. Oui, c'était vraiment... ça n'a plus rien à voir.
C'était aussi l'époque de Jacques Prévert, un peu.
Oui, tout à fait.
Un petit peu, bien que vous soyez quand même plus jeune que Jacques Prévert, mais c'était un peu...
C'est absolument cette époque-là qui habitait là, d'ailleurs, qui habitait, lui, à côté, au-dessus du Moulin Rouge, avec Boris Vian, qui était sur... l'impasse, là, je sais pas comment ça s'appelle, cette impasse à côté du Moulin Rouge, là.
Oui, je
vois. Et ils ont eu un appartement, ils avaient leur appartement l'un en face de l'autre, d'ailleurs.
Ah oui. Oui, on y est passé. C'est à côté de la rue Germain-Pilot.
Oui, là, passage Véron.
Passage Véron.
Véron, la cité Véron.
Voilà. Cité Véron, voilà, exactement. Souvent on y passe quand on veut aller au théâtre.
Et d'ailleurs j'ai visité les deux appartements parce que on devait monter, il y avait une dame qui devait monter une comédie musicale qu'avait écrit Boris Vian, qui n'a jamais été montée. Il n'a jamais été montée et elle voulait la monter. Mais bon, alors on s'était vu, donc on avait été chez Boris Vian, puisque c'est elle qui s'occupe du patrimoine.
Pour les auditeurs,
Boris Vian.
On va expliquer, c'est qu'en fait, votre carrière dans le théâtre, principalement, c'est en tant que programmateur de spectacles. De tournée, programmateur de spectacles.
Oui, le plus gros de ma carrière, ça a été tourneur.
Tourneur voilà.
Et producteur.
Voilà.
Et voilà, donc c'est...
En fait, vous connaissez pratiquement, vous avez connu presque toutes les vedettes de 1950 à aujourd'hui.
Oui, à aujourd'hui, oui.
Vous avez même connu Belmondo, alors...
C'est moi qui ai fait la dernière tournée de Jean-Paul Belmondo, la plus grosse tournée qu'on ait jamais emmenée en Europe, Frédéric, la pièce d'Éric Emmanuel Schmitt. Et c'est là que Jean-Paul a eu son premier AVC, d'ailleurs.
Ah, voilà. Alors, donc là, on était en train de parler d'une comédie musicale de Boris Vian
Qui n'a jamais été montée, pour cause, parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 30 personnes dedans, donc... c'était impossible à monter. Donc, on avait été...
Et vous avez connu Boris Vian?
Non, je ne l'ai pas connu, non. Et donc, cette dame-là qui s'occupe donc du patrimoine de Boris Vian, parce que je crois qu'en bas, il y a pas un musée, mais quelque
chose. Voilà. Son appartement est devenu un musée.
Son appartement, c'est vraiment un bric-à-brac comme jamais j'ai vu. Il y avait des outils, des boîtes à outils, des marteaux, des trucs extraordinaires. Et comme il y avait la fille de Jacques Prévert qui était là à ce moment-là, j'ai demandé de visiter l'appartement où Prévert habitait. Et là, c'était formidable parce que il y avait le lit de Notre-Dame de Paris dedans, un petit lit où il y avait Esmeralda. Enfin, c'était extraordinaire.
Lit de Notre-Dame de
Paris. Oui, qui est du film Notre-Dame de Paris.
Ah oui.
Oui,
j'ai vu ce film avec Philippe Clay.
Oui,
et Robert Hirsch,
Philippe Clay, Gina Lollobrigida, Anthony Quinn et Boris Vian qui jouait dedans aussi.
Ah oui, d'accord. Voilà. Alors donc, il y a une petite anecdote, c'est-à-dire que vous êtes né, enfin, vous avez tout jeune, vous habitiez rue des Gardes,
oui.
Et c'est quand même assez extraordinaire. Vous avez assisté tout enfant, vous étiez un petit enfant,
oui.
Au tournage de Casque d'or avec Simone Signoret.
Oui.
Et Reggiani
et Claude Dauphin.
Et ça c'est un ça vous a marqué?
Oui, ça, ah oui, ça m'a marqué, oui. Alors, pourtant, j'étais tout petit, hein, parce que je devais avoir 4 ans, je ne sais plus. On était à la fenêtre et on a vu un carrosse, une calèche qui passait, avec Simone Signoret dedans. Et puis...
Elle était habillée comme casque d'or, en plus.
Oui.
Elle était, la belle Simone Signoret.
Oui.
Franchement...
Oui,
moi, j'aurais été un homme, je tombais...
Elle était très, très belle, ouais. Et puis, il y avait tout le passage où Reggiani court après Claude Dauphin pour le rattraper, parce que j'habitais à côté de, si vous voulez, de démolition, parce que c'était juste après la guerre, donc il y avait des démolitions un peu partout dans Paris, et donc ils avaient tourné, ils ont pour tourner une partie du film là, dans les démolitions, où nous, gosses, on jouait, et donc c'est pour ça qu'on a assisté au tournage donc, de Casque d'Or, mais... Oui, je vous dis, j'avais 3-4 ans à l'époque.
Et vous en souvenez?
Ah, je m'en souviens, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Oui.
Est-ce qu'on pourrait passer le temps des cerises? Parce que le temps des cerises, c'est la chanson qui est juste à la fin du film.
Du film, absolument.
Ouais, et Jean-Baptiste Quémant, bon, ben, je sais que les libertaires, ils aiment bien quand même.
Hein, oui.
C'est un artiste de la commune.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va d'eux, cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux roses pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Je l'ai su ce matin. Il a fait ça pour t'avoir, pour avoir Marie.
Il fallait peut-être entendre un petit extrait de Casque d'Or quand même, mais là, effectivement, on a juste la calèche qui se promène et moi, j'ai l'image de Simone qui descend.
T'es sûr que c'est là?
C'est pas quand on l'emmène à la guillotine?
Si.
Oh, zut alors! Non, non, moi, chaque fois, ça me fait peur. Enfin, je veux dire, ça, c'est de l'effroi, quoi. C'est de l'effroi, c'est... Bon, enfin, c'est spectaculaire aussi, Fantaise. Et alors, donc, ça, c'est, vous étiez encore un enfant,
oui.
Un tout petit enfant.
Oui.
Le temps a passé. Et on va quand même faire un petit bond, hein, parce
oui.
que, bon, on va faire un petit bond.
Oui.
Et on va. Vous avez fait. Vous êtes parti de l'école, vous aviez 14 ans.
14 ans, oui.
Le certificat d'études. Après, vous avez fait toutes sortes de petits métiers.
Oui.
Voilà.
Oui,
hein, oui. Comme. Bon, ça, dans la vie, on fait plusieurs petits métiers oui. hein, au début. Hein, mmh. Voilà. Et alors, un jour, vous occupiez de livrer des cuisinières.
Oui, je travaillais dans un magasin d'électroménager.
Voilà.
Mais j'étais plus dans le 18e, j'étais dans le 15e. Ça s'appelait Radio Convention. Et donc, j'étais apprenti. Apprenti, je ne sais pas de quoi, parce que je faisais beaucoup de choses. Je faisais
polyvalent.
Polyvalent. Je faisais les vitrines, je livrais les bouteilles de gaz, je vendais, voilà.
Donc, j'étais tout jeune aussi, hein.
Ben, j'avais 14 ans, oui.
14 ans.
Ah, oui, ouais. Oui, c'est là que j'ai commencé à travailler, c'est la Radio Convention. Et donc, un jour, une dame est rentrée dans le magasin pour acheter une petite cuisinière. Et j'étais tout seul dans le magasin, donc je ne connaissais rien aux cuisinières du tout. Mais je la connais, je connais ce visage-là. Je ne savais pas trop qui c'était. Et puis, à la fin, donc pour remplir le bon de livraison, elle me dit je suis Maria Sandrini et je fais partie du groupe Les Trois Ménestrels. Les Trois Ménestrels. Et c'est là, alors là, ça m'est venu parce que il y avait leur photo, une affiche sur les colonnes Maurice que j'avais vue. Et je dis voilà, donc là. Alors, bien évidemment, j'ai fait des pieds et des mains pour lui livrer, moi, la cuisinière, avec un autre. Et comme pourboire, elle m'a donné une invitation pour aller les voir à l'ABC où il passait en vedette américaine de Dario Moreno et d'ailleurs il y avait Enrico Macias en vedette anglaise. Donc c'était dans les années quelle époque vraiment c'était. Et c'est là que nous sommes devenus amis, qu'elle a été ma marraine de spectacle, puisque toute ma vie, je les ai suivis, et elle m'a suivi dans tout ce que j'ai fait. Alors ce jour-là, elle m'a présenté donc ses partenaires. D'ailleurs, je peux pas parler, mais je suis passé sur la tombe de Jean-Louis, qui...
Oui, oui, on est à 2-3 kilomètres du Père Lachaise,
voilà,
n'est-ce pas
voilà, donc.
Bonjour, Guillaume.
Voilà.
Bonjour, Guillaume. Donc, on est à 3 kilomètres du Père Lachaise.
Voilà.
Et avant de venir, vous êtes recueilli sur la tombe des trois ménestrels.
Voilà.
Lequel?
Jean-Louis, celui qui a été assassiné.
C'est pas facile de trouver les tombes. Moi, j'ai cherché celle de mon cousin, jamais réussi à trouver. Et vous êtes tombé dessus.
Oui, je suis tombé dessus, mais ça fait un petit moment déjà. Un jour, je passais d'une porte à l'autre, et puis je traversais l'allée, et puis tout d'un coup, j'ai vu qu'il était enterré là. Parce que c'était celui que j'ai le moins connu. Hein. C'est Maria et Raymond que j'ai connu surtout. Voilà.
Ah, d'accord. Voilà. Alors, je pensais, peut-être que ça vous fait plaisir. Bon, c'est pas la première jeunesse, mais c'est quand même c'est l'époque. Si on écoutait, tiens, voilà un marin.
Ah, bah, c'était la chanson préférée de Maria, oui.
Ah ben voilà. Ouais.
Tiens, le marin, il est encore loin, mais on voit de loin que c'est un marin. Tiens, le marin, ce n'est pas le mien, c'est jamais le mien, mais c'est un marin. C'est le même que celui
disciple un refrain qui dans le matin risque ton chemin. C'est presque le même que celui qui t'a.
Tiens, voilà un marin, c'était créé par Édith Piaf.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et c'était chanté donc aussi par les Trois Ménestrels. Et ils ont chanté beaucoup de chansons de Gilbert Bécaud. Ils ont fait beaucoup de tournées avec Gilbert Bécaud. Ils ont quand même créé La Balade des Baladins. Et c'est eux qui ont créé la chanson de Guy Béard, Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. C'est
ah
eux
oui,
qui l'ont créé en
oui,
disque.
Oui, oui. Ah oui, d'accord. Moi, je m'en souvenais. Moi, je me souviens bien des compagnons de la chanson, les frères Jacques. Mais oui. C'est vrai que les Trois Ménestrels, c'est nouveau pour eux.
Oui, bah oui, bah, c'était la même époque. Il y avait les frères Jacques, mais ils étaient plus les Ménestrels étaient plus comme les frères Jacques que les compagnons de la chanson. C'était plus statique, c'était plus. C'était tandis que les Ménestrels, les frères Jacques, c'était plus. Un spectacle, c'était mimé, il y avait du mime, leurs chansons étaient jouées.
Oui, oui, d'accord. Voilà. C'était vraiment du spectacle.
C'était du spectacle. Voilà.
Oui, oui. Avec des décors, des costumes.
Non, au musical, non. Non. Ils ont fait un spectacle qui s'appelait Deux chats et une souris à la tête de la potinière, où là, il y avait tout un spectacle où ils jouaient une opérette express, une petite pièce de théâtre, et ils faisaient leur tour de chant.
D'accord. Alors donc, ce sont les Trois Ménestrels que vous avez suivis.
Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le spectacle. Voilà.
Et alors, j'étais un petit peu plus âgé.
Oui.
Votre mère. Elle a acheté un café-restaurant, c'est ça ?
Elle a acheté un restaurant,
ouais.
Café-théâtre, où il y avait une salle de théâtre derrière, un café-théâtre, où j'ai joué d'ailleurs du Dac au Dac.
Ah, voilà, du Dac au Dac.
Du Dac au Dac.
Ouais. Et vous avez créé une salle.
Alors oui, la salle que j'ai appelée la salle Jean Cocteau. Et donc on l'a décoré comme avec les peintures de Jean, les dessins de Jean de Cocteau. Et pour faire l'inauguration, donc j'ai demandé à Jean Marais et à Édouard Hermite de venir d'être les parrains. Donc ils ont accepté. Et puis Édouard m'a dit écoute viens. Ami Laforêt, Édouard Hermite, c'était celui qui a hérité de Jean Cocteau. Hein. C'était son fils adoptif.
Oui.
Donc, je suis allé à Milly Laforêt. Il m'a dit, écoute, tu choisis. Alors, c'était extraordinaire. Je suis arrivé là-bas. La maison, elle était comme du temps de Cocteau. Hein. C'était, il y avait encore dans la chambre de Cocteau une ardoise avec une grande ardoise avec un dessin à la craie de Cocteau. C'était extraordinaire, parce qu'il était mort déjà depuis quelques temps. Hein.
Ouais.
Donc, alors il m'a dit choisis.
C'était dans
que...
les années 80, ça, à peu près.
C'était dans les années 80, parce que c'était, je me souviens, c'était en 80-81, un truc comme ça.
Ouais.
Et donc il m'a dit tu choisis ce que tu veux, voilà pour l'exposition. Donc, alors j'ai choisi des lithos, il m'avait prêté les mains de Cocteau qui étaient sculptées, qui avait été sculpté. Alors j'ai ramené plein de choses et puis on a fait donc cette exposition et puis on a invité tous les interprètes de Cocteau qui étaient encore vivants. Il y avait Il y avait Michel Auclair, Nan Germont, Jean-Roger Cossimon, Mila Parelli, Planchette oui. Brunois, tout ça. Tout ça sont venus à cette inauguration. Donc ça a un peu révolutionné le quartier du Marais, où rue des Archives, où ma mère avait son restaurant. Et la patronne d'un café-théâtre qui s'appelait Le Connétable, à côté.
Et qui existe toujours.
Qui existe toujours. Qui avait donc une cave, mais qui se passait rien dans la cave.
Qui existe toujours.
Qui existe toujours, oui, absolument. C'est un des derniers cabarets de Paris, d'ailleurs. Et elle m'a demandé de venir, si je voulais bien...
C'est rue des Archives.
Rue des Archives. Coin de la rue des Archives et de la rue des Audriettes. Elle m'a demandé si je voulais bien venir m'occuper, comme directeur artistique, du cabaret. Alors, comme j'étais un passionné de chansons aussi, j'ai dit oui. Et donc, j'ai programmé le cabaret, le Connétable. Donc, j'ai engagé Bernard Dimet, Monique Morelli, Jean Rigaud, Lucie Delaine, Cora Vauquer, Maurice Fanon, Jacques de Broncard. Voilà, tous ces gens sont venus chanter au Connétable. Et Anne van der Love, Anne Sylvestre, voilà.
Anne Sylvestre aussi.
Jacqueline Dano, bien sûr.
Ah oui, oui,
voilà.
Oui. Alors, je pensais qu'on pourrait écouter...
Il y en a beaucoup,
on peut écouter
là,
les deux, hein, mais... alors, moi, j'avais sélectionné Maurice Fanon, parce que c'est vrai, on ne l'entend pas souvent.
Oui, c'est vrai.
Et un poème de Bernard Dimet.
Oui.
Après, vous pourrez en parler de chacun, parce que vous les avez bien connus.
Oui, hein. Ah oui, oui.
Bon, on va lancer ça. On va lancer ça. On va aller...
Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce souvenir de soi qui se souvient de nous, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux, c'est qu'encore une fois j'ai voulu comme un fou me souvenir de toi, de tes doigts sur mon cou, me souvenir de nous, quand on se disait vous. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce sourire de soi qui sourit comme nous sourions autrefois, quand on se disait vous, en regardant le soir tomber sur nos genoux, c'est qu'encore une fois j'ai voulu revoir comment tombe le soir quand on s'aime à genoux. Si je porte à mon cou en souvenir de toi ce soupir de soi qui soupire après nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi, c'est qu'il y a toujours l'empreinte sur mon cou, l'empreinte de tes doigts qui se mouent, l'empreinte de ce jour où les doigts se délient. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, cette écharpe de soie que tu portais chez nous, ce n'est pas pour que tu vois comme je m'ennuie sans toi, ce n'est pas qu'il fasse froid, le fond de l'air est doux.
Moi qui fais des chansons depuis bientôt 20 berges, comme d'autres s'amusent à faire des mots croisés, cultivant le jardin où fleurit ma gamberge, je tire mon chapeau à ceux qui sont passés, à ceux qui trimbalaient au fond de leur musette des mots qui méritaient 100 fois le Panthéon, qu'on chantait dans les rues par de faire la quête sur les places de Paris à coups d'accordéon. entre Lilipot de chien, la fleur de la Bastille, et Prosper et hop la boue, mais parlez-moi d'amour. La vieille java bleue qui faisait tourner les filles, et les pièces de 10 sous qui tombaient dans les cours. J'ai grandi, tout joyeux, la romance à l'oreille entre Paris Canaille et le petit vin blanc, entre les feuilles mortes et des monts et merveilles, entre la voix de Piaf et la voix de Montand. Des chansons venues du fond des âges, de l'époque où le roi faisait battre tambour jusqu'au temps des cerises. Le plus bel héritage, le plus joli fleuron de la chanson d'amour. J'aurais tellement aimé écrire la vie en rose. Croiser Monsieur William entre Ostende et Paris, sur le port d'Amsterdam, cultiver ma cirrhose. C'est du petit bonheur, mais ça n'a pas de prix, les chansons. Les refrains qu'on fredonne en sourdine entre l'île Saint-Louis et le pont Mirabeau, quand mon pote le gitan s'endort dans sa verdine, c'est comme un bon poison qu'on aurait dans la peau. Moi qui fais des chansons pour occuper mes heures, je voudrais en faire une qu'on n'oublierait jamais, afin que parmi vous, un peu de moi demeure, comme une fleur vivace aux marches du palais.
Et il en a chanté une qui restait dans les mémoires, Syracuse,
oui.
qu'il a créée avec Henri Salvador.
Henri Salvador,
voilà. Eh oui, c'est lui.
Oui, oui. D'ailleurs, j'en parle dans le livre, d'ailleurs, elle a été écrite très, très, très vite, Syracuse. Il avait terminé les paroles avant que Salvador ait terminé la musique. D'ailleurs, c'était une soirée très arrosée, comme souvent avec Bernard. Donc, il est arrivé chez Salvador, il a vidé le frigo déjà, et il a dit,
c'est un bon vivant.
Il a dit, ah, c'est un très bon vivant. On va écrire la plus belle chanson du monde, voilà. Et donc il a écrit Syracuse, et Salvador avait pas fini d'écrire les, mais ça a été très très vite. Ils l'ont écrit très très vite.
Ah oui.
Voilà. Et c'est une chanson qui a eu un succès extraordinaire.
C'est vrai, très souvent, c'est pas la première fois que j'entends dire que il y a des chansons qui sont restées très connues, comme je sais plus le Prisonnier de la Tour, ou qu'elles sont écrites sur un coin de table.
Oui,
Francis Blanche, il l'a écrite sur un coin de table en 15 minutes.
Ouais,
Et puis ils sont allés l'amener à Edith Piaf comme ça.
C'est dingue.
Bon, peut-être que ça avait déjà. Dans leur tête, ils l'avaient déjà peut-être.
Oui, mais ils avaient.
Des années de pratique.
Oui, voilà, c'est ça.
Charles Freinet a écrit Coin de rue à la Cloche d'Or, le restaurant La Cloche d'Or, sur un coin de table, parce qu'il faisait des travaux en face de la Cloche d'Or. Et il était là, et tout d'un coup, il a pris un papier, il a écrit Je me souviens d'un coin de rue aujourd'hui disparu. Il l'a écrit en un quart d'heure.
Avec le temps aussi, ça a été très très vite.
Avec le temps aussi.
Très vite, un quart d'heure. Il a...
Vous étiez là
Je n'étais pas là, mais je le sais. Je le sais.
Il a
qu'on a convu lui-même d'ailleurs. Il l'a dit lui-même. Il avait écrit très vite.
Et ben parfois il faut faire les choses vite.
Mais bon, comme on disait, il y a des années de.
Il y a des années de pratique, années certainement. De savoir-faire. Oui. Enfin bon, c'est.
Alors Bernard Dimet, j'étais très très heureux de le rencontrer et de faire un bout de chemin avec lui. Bon, mais malheureusement au Connétable ça a pas très bien marché, quand le public était pas là, quoi. Donc c'était un petit peu embêtant, j'étais un peu embêté le soir parce que il y avait personne, il fallait deux personnes, j'ai pas joué devant deux personnes et tout. Bon, alors on arrivait toujours à arranger les trucs, mais enfin ça m'a un peu peiné, mais bon, j'étais heureux de le rencontrer parce que c'est vraiment un grand monsieur, un grand poète.
Voilà. Oui.
Quant à Maurice Fanon, alors Maurice, lui, c'était encore une autre histoire aussi. On l'a eu, il est venu, il est reparti, parce que Françoise du Connétable, la patronne, elle avait acheté le Connétable parce qu'elle a toujours été amoureuse de Fanon. Et elle voulait elle l'a acheté pour Fanon, pour qu'il vienne chanter au Connétable.
Ah,
donc pour réussir à l'avoir au Connétable, Fanon, à l'époque, ça n'a pas été était facile. On a fait tous les cabarets de Paris, les petits cabarets, les petits machins où il passait. Des fois, il était lui aussi.
L'échelle de Jacob.
Oui, mais c'était pas toujours à l'échelle de Jacob. C'est dans des petits trucs, dans des petites boîtes minables, des fois où il passait. Hein.
Ah bon ?
Ah ben oui. Oui, c'était pas quelqu'un de facile. Très facile, Maurice. Hein, quand
il
n'était
pas facile ?
Non, il n'était pas toujours facile. C'est un grand monsieur, mais pas toujours facile. Et alors, on a mis des mois et des mois à l'avoir au Connétable. Il est venu, il a chanté, il est reparti, on ne l'a plus revu. Et un jour, il est venu au Connétable, il s'est installé, il a épousé Françoise.
Ah oui, quand même.
Et voilà.
Je dis
dans mon livre qu'il lui a passé son écharpe autour du cou. Et c'est une belle histoire de poète.
Ah bon, ils sont restés mariés ?
Oui, elle s'appelle maintenant Françoise Louinsque Fanon.
Ah, il est toujours toujours là.
Voilà.
Ah, c'est bien, mais c'est une belle histoire.
Ah, c'est une très belle histoire. Oui.
Très belle histoire.
Bah, qui n'a pas été facile, mais c'est une très belle histoire.
Parce que le Connétable, ça existe toujours.
Ça existe toujours.
Et il y a toujours des artistes.
Tous les soirs, il y a des artistes qui passent.
Isabelle Sprong qui est venue.
Tous les soirs, il y a des artistes qui passent.
Il n'y a pas longtemps.
Il n'y a plus une programmation comme il y avait avant.
Il y a Isabelle Sorcher qui est la compagne de Tim Lazer aussi, qui il va assez souvent. Il y en a d'autres.
Connus, pas connus.
Enfin bref. Qui c'est qui sont venus déjà ? Le Suisse, là. Comment il s'appelle, là ? Le chanteur suisse, là, je ne me rappelle plus. Sarclo, je l'ai vu au Connétable. Et. Il y en a plein d'autres que j'ai vus. C'est resté, je crois, pareil, hein, non ? J'imagine.
Non, c'est
la cave.
La cave est. Elle est un peu évoluée, disons, disons que maintenant c'est plus du tout pareil. À l'époque, moi je faisais une programmation où les artistes passaient 15 jours, un mois, et maintenant c'est tous les soirs, il y a des gens qui passent, mais
c'est au chapeau.
C'est pas Françoise qui s'en occupe d'ailleurs, c'est quelqu'un qui programme comme ça.
Oui.
Si, voilà.
Mais elle est plus la patronne, Françoise.
Elle est toujours la patronne.
Ah d'accord.
Et j'avais créé au mois de juin un spectacle qui s'appelait le Festival des promesses de la chanson, où pendant un mois, on a fait passer des jeunes artistes, auteurs, compositeurs, poètes et tout, qui n'étaient pas connus et qui étaient parrainés par une vedette de la chanson ou une ancienne vedette, disons. Enfin, il y avait quand même eu Mouloudji, Colette Renard, Catherine Sauvage, Françoise Cassolville, qui ont parrainé donc un jeune chanteur qui venait. Voilà. C'était au mois de juin 1981.
Ouais. Il faudrait écrire l'histoire du Connétable, hein, quand même. Hein, parce que
vous en avez une partie dans le livre.
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on en parle aussi.
Voilà.
Oui. Alors, après le Connétable, qu'est-ce que vous avez fait après le Connétable ? Pourquoi vous avez quitté le Connétable ?
J'ai quitté le Connétable parce que j'avais fait un petit peu le tour. Et puis, j'avais envie de partir, un peu ailleurs. Et puis, disons que j'étais comédien aussi, donc j'ai.
Oui, c'est ça. Voilà, donc, vous n'en parlez pas tant que ça,
vous avez
quand même été comédien.
Oui.
Vous avez suivi les cours Simon.
Comédie musicale du théâtre des Capucines.
Vous avez écrit une comédie musicale, non ?
J'ai écrit plusieurs comédies musicales, mais pour jeune public. Hein,
pour jeune public.
C'est moi des premiers qui a créé la comédie musicale pour jeune public. On a joué à l'Élysée Montmartre et à. Bien avant que Chantal Goya ou tout ça.
Vous étiez même un précurseur avant Chantal Goya.
Oui, il y avait pas, ça se faisait pas encore et c'était très, très drôle parce qu'on jouait un spectacle qui s'appelait Histoire extraordinaire de grain de son. C'était donc une comédie musicale pour enfants. Et on jouait ça l'après-midi à l'Élysée Montmartre chez Roger de la Porte qui était un catcheur à l'époque et qui était directeur de l'Élysée Montmartre. Et le soir, il jouait au Calcutta. Le Calcutta, c'était un spectacle où tout le monde était nu en scène.
Ah bon ?
Oui. Alors, il y avait des photos de devant l'Élysée Montmartre. Et l'après-midi, pour les enfants, on mettait des caches devant.
Ah d'accord, oui. Ah oui, c'est assez drôle. Ouais. Oui. Donc là, vous avez...
Alors je suis parti un petit peu parce que je suis parti en tournée. Et puis... je suis, disons, j'ai fait de la figuration aussi, à l'époque, à l'Opéra de Paris, et puis à la Comédie-Française, où je suis rentré comme stagiaire à la Comédie-Française.
Ouais, c'est là où j'avais rencontré...
J'ai rencontré Dominique Besnéard.
Dominique Besnéard.
Qui a fait la préface. Donc, je suis resté 2 ans et demi, je crois, à la Comédie-Française. Et puis, on a même été engagé par Béjart, qui est venu à la Comédie-Française pour chercher 20 garçons pour le boléro qui montait à l'opéra.
Ah ouais? Ah
oui, alors il y avait 20 danseurs du corps de ballet et 20 mecs qu'il avait pris à la Comédie-Française pour qui dansaient autour de la table ou dansaient dessus Claude Bessy ou Claire Motte à l'époque.
Ah ouais, ouais. Ah ouais.
Donc c'était le boléro qu'il a à la création. Puis après, ça a été le contraire. C'était des filles autour, puis c'était Georges Donne qui était au milieu sur la table.
Ah oui, mais c'est quand même bien ça.
Ah bah oui, on a dansé, c'est un bien grand mot. Disons qu'on a participé au boléro de Ravel, à l'Opéra de Paris, dans la cour carrée du Louvre, et au Théâtre des Champs-Élysées, ça pendant 3 mois.
Ça, c'est des super souvenirs, ça.
Ah oui, c'est des super souvenirs. J'avais une pétoche bleue, parce que comme il fallait... il y avait quand même des choses, des pas de danse à faire, puis il fallait compter les partir au bon moment, et alors j'avais un danseur du corps de ballet à côté de moi, je lui disais, quand c'est à moi, tu me fais signe, hein, parce que j'avais tellement les jetons de... Puis alors à la fin, il fallait se précipiter sur l'immense table ronde, il fallait qu'on saute sur la table et qu'on tombe sur la table, et alors on était tellement serrés, on était 40 mecs, donc... il fallait vraiment arriver à sauter. Ça serait maintenant, je ne pourrais plus. Avec les
genoux. Oui, d'accord. Oui.
Donc oui, c'est un souvenir formidable.
Ah oui, ça j'imagine. Et alors après, vous avez commencé à vouloir programmer des spectacles.
Alors après, j'ai rencontré dans un studio de télévision un garçon qui s'appelait Jean-Georges Tarot, qui est maintenant directeur du théâtre de Passy.
Le théâtre de Passy, oui. Je suis allée récemment pour voir comment il s'appelle
Popek.
Ouais,
voilà. Et donc on a décidé de créer une entreprise de tournée qu'on a appelée Spectacle 2000, et donc on a
qui a duré presque 20 ans, non?
25 ans, puisqu'on a racheté les Galas Carcinti.
Ouais.
Et puis on a acheté un théâtre aussi, la Comédie de Paris. Donc on a pendant 25 ans, on a monté des spectacles en province et à Paris. Ceux qui m'ont marqué le plus, Harold et Maud avec Daniel Darieux, Les Parents Terribles avec Daniel Gélin et Daniel Delorme. Le journal d'Anne Frank, qui était un très beau spectacle, qui n'a pas marché très fort malheureusement, mais qui était très beau, avec Marc Casso. Gina Lollobrigida pour La Mama. Alors ça, c'était toute l'aventure que je raconte dans le livre. C'est en fin de compte, elle l'a jamais joué, mais on a pendant 3 mois, on a failli avoir Gina Lollobrigida. Ce qui nous a permis d'aller en Italie pour aller chercher des contrats qui n'ont jamais été signés. Donc tout ça, je le raconte dans le livre, et c'est des souvenirs extraordinaires. Mais voilà, donc je raconte tout ça avec toutes les pièces qu'on a montées, qu'on a créées, l'affrontement avec Jean-Pierre et Francis Lalanne.
Ça
n'a pas été facile parce que. Bon,
mais vous dites quand même que Francis Lalanne, il a du talent quand même.
Je dis qu'il a beaucoup de talent, c'est un très grand acteur, mais que
c'est. C'est un drôle de bonhomme.
Ah, c'est. Le mot est faible.
Ah, le mot est faible, d'accord.
Là, je ne préfère pas en parler.
Ah, oui, c'est ça. En tout cas, vous avez connu tellement de vedettes. Alors, il y en a une, moi, pour un peu rigoler, dont vous parlez pas mal, c'est de Robert Lamoureux.
Oui.
Ouais. Alors, j'ai trouvé un petit sketch, que je trouve ça rigolo.
Ah oui.
On va l'écouter, de Robert Lamoureux, oui. Vous le direz un peu.
Voilà, pour la nouvelle année, évidemment, moi qui ai une nombreuse famille, il a fallu que je distribue des jouets. Et à propos des enfants, je me souviens qu'un jour, on m'a dit, mais vous qui avez des enfants, est-ce que vous leur dites, enfin, je parle pour mon aîné qui va sur ses 15 ans maintenant, Et je l'ai eu très jeune, et... Non, mais je dis ça parce qu'il faut sauver la face. Alors, on m'a dit, mais est-ce que vous lui avez... Est-ce que vous avez pris un jour votre garçon à part pour lui dire, dis donc, voilà, mon vieux, comment ça se passe, les choux, tout ça... Alors, ça m'était difficile de répondre autrement qu'en vers. Alors, j'ai écrit 8 petits vers que je vais vous dire. Ça fait comme ça, si vous avez des garçons de 15 ans, je vais vous donner mon adresse et je vous enverrai la brochure. Voilà. Le rosier ne sait pas comment se font les roses. La lionne a des lionceaux sans avoir rien appris. Aimer, se reproduire est dans l'ordre des choses. Moi-même, je l'ai su sans qu'on m'en ait rien dit. Laissez donc la nature expliquer ses mystères. Laissez vos enfants croire aux enfants dans les choux. Ils seront en leur temps ce qu'il convient de faire et ce qu'ils devront faire, ils le feront sans vous.
Oui, tiens, parlez-nous de Robert Lamoureux.
Alors, Robert Lamoureux, on a monté une de ses pièces qui s'appelait « Si je peux me permettre », qui au début ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs, ça s'appelait « Tous pourris ». Et donc,
« Tous pourris »,
ça s'appelait.
C'est un peu moche comme titre, hein.
Oui, bah oui, c'était un peu l'histoire, une histoire de bon... disons de l'histoire, c'était un peu l'histoire de Tapie qu'il avait voulu écrire. Voilà.
L'histoire de Tapie, Bernard Tapie.
Oui, de Tapie, les histoires qu'il y avait eues. Donc, il en voulait en faire une pièce. Donc, ça s'appelait Tous pourris. Et donc, on n'a pas pris ce titre-là, bien sûr. Et là, la pièce, il est venu nous en parler. Et alors, il me l'a raconté, la pièce. Il était avec le metteur en scène, Francis Geoffaut. Et il m'a raconté la pièce, tout ça. Et c'était très drôle, parce que Robert était quelqu'un à mourir de rire. Il était formidable pour raconter les histoires. Et je lui ai dit, bon, bah, d'accord, ok, on la monte, on la signe. Alors, voilà, on avait avec Balutin, il y avait Balutin aussi dedans. Donc, je lui dis, mais bon, ça serait bien que vous me donniez le manuscrit. Ben, il me dit, ah ben non, mais elle est pas écrite encore, elle est pas écrite. Hein, donc il m'avait raconté une pièce qui n'était pas écrite. Donc on l'a signée, on l'a commencé à la vendre, sous le titre de Tous pourris, bon. Et après, on a modifié, donc on a appelé ça Si je peux me permettre. Et on a joué ça... En tournée, ça a marché très très fort, et on l'a repris au théâtre des Nouveautés. On a refait une autre tournée après. On l'a repris au Saint-Georges. Ça a duré la pièce pendant 4 ans.
4 ans.
4 ans. Et bon, et c'est là-dessus que je raconte qu'on s'est fait avoir par les directeurs des Nouveautés qui nous ont, comme c'est nous qui l'avions monté de A à Z. On n'a pas eu le pourcentage qu'on aurait dû avoir pour quand ils l'ont reprise à Paris. Mais ça, c'est toute une histoire qui est très longue, donc je ne vais pas vous la raconter maintenant. Si vous achetez le livre, vous le verrez.
Bah oui,
je la raconte dans le livre. Je la raconte dans le livre. Je le raconte dans le livre. Et on a perdu des millions et des millions et des millions parce que ils n'ont pas été honnêtes. Et ce qui est très drôle, c'est que cette directrice, c'est nous qui l'avons amenée en voiture chez Robert Lamoureux à Boulogne. Et elle nous a dit, oh, vous savez, hein, nous on est honnête, vous aurez votre droit de suite de 5%, comme c'est vous qui avez tout monté, il y a le décor et tout. On aurait dû se méfier, parce qu'on la connaissait. Bon, on s'est dit, on l'amène là-bas, et la bêtise qu'on a faite, c'est qu'on l'a laissé avec Lamoureux, en tête à tête. Nous on est reparti, on avait autre chose à faire. Et comme à l'époque, quand on montait, que les tourneurs montaient un spectacle, la SACD nous donnait les droits pour la tournée, mais signait pas pour Paris. Donc, il fallait qu'on s'arrange avec les directeurs après pour avoir notre pourcentage.
Ben oui, c'est normal.
Voilà. Et ben, elle en a profité pour embobiner Robert et faire signer un contrat comme c'était eux, les producteurs sur Paris, et nous, on n'était plus rien. Donc, quand on a appris ça le lendemain, moi j'ai pris mon téléphone, j'ai dit à Robert, mais attends, qu'est-ce que t'as fait là, tu sais pas que c'est nous qui avons monté la pièce. Et tu signes ça à cette bonne femme qui n'ont rien fait. Et elle dit non, mais tu sais, mais j'ai pas compris. Elle m'a dit vous alliez avoir votre pourcentage. Je dis elle l'a dit, mais on l'a pas parce qu'on a été signé le contrat. On a 1%. Alors bon, est-ce que Robert était vraiment sincère ou pas, je ne sais pas trop, mais bon, en tout cas, l'a embobiné et on a perdu beaucoup d'argent et ça a été catastrophique.
Du métier, comme on dit.
Oui, quand on a affaire à des gens qui sont malhonnêtes, oui, ouais. Voilà, parce que bon. Tout le monde n'est pas comme ça dans le métier, heureusement.
Ceci dit, bon, ça fait partie des regrets.
Oui.
Mais on peut.
Mais j'ai pas, je
dis,
parle
pas beaucoup. Il y a tout le reste, en fait.
Je parle pas beaucoup des regrets dans le livre.
Alors, je sais qu'on va vous poser toujours la même question. Avant la dernière question, vous avez rencontré Aragon aussi.
Oui.
C'était chez
Monique Morelli.
Monique Morelli. Voilà. Monique Morelli, qui était une chanteuse.
Qui était une chanteuse.
Et que vous avez connue au Connétable.
J'ai connu avant le Connétable.
Avant le Connétable, mais que vous avez reçu.
Je l'ai engagé au Connétable et je l'ai engagé à la Comédie de Paris aussi. Et puis je l'ai. J'ai souvent engagé Monique, mais je l'avais connue avant le Connétable. Elle habitait à Montmartre et elle avait une très belle maison à Montmartre. Elle était mariée avec l'accordéoniste Leonardi, qui a écrit la musique de Maintenant que la jeunesse.
Ah oui.
Donc sur les textes de Louis Aragon. Et Aragon venait souvent chez eux. Et souvent, donc, j'ai rencontré Aragon. On a mangé ensemble.
Il était plutôt jeune, là.
C'était sur la fin de sa vie.
Sur la fin de sa vie.
De sa vie. Il était passionnant. C'était passionnant.
Ah
oui.
Moi,
j'étais très, 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 très intimidé. Mais je m'en rappelle de surtout quand on a commencé à parler de Rimbaud. La Rimbaud... Il a ses yeux qui sont... on sentait qu'il avait une passion pour Rimbaud. Mais bon, j'ai gardé un souvenir extraordinaire parce que ce monsieur était vraiment formidable.
Ah oui, 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 mais ça me fait plaisir de l'entendre. Bon, oui, parce qu'il y en a qui l'ont critiqué en disant que c'était un bourgeois, etc.
Bon, non, moi je ne pas...
Mais je ne veux croire qu'aux bons aspects des personnes.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Alors, donc, vous avez écrit J'ai la mémoire des planches, et oui. C'est vraiment. Il faut du temps pour le lire, et puis
oui.
Il faut aimer les comédiens, en fait.
Oui.
Vous avez. Vous...
J'ai écrit ça pour, disons, une transmission. Transmission pour la jeune génération. Alors, bien évidemment, qui s'intéressent au spectacle et qui veulent être comédiens, acteurs, metteurs en scène, chanteurs, poètes, et pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'il y a eu avant eux et qui découvrent cette époque pour le spectacle qui était formidable parce que à cette époque-là, on ouvrait une semaine de Paris, ça s'appelait comme ça à l'époque, le Pariscope. Alors là, il y avait de quoi faire, hein, entre les théâtres, les musicaux, les cabarets et tout ça. Pouh, Paris, c'était une fête. Maintenant, c'est la misère. Hein.
Ah oui, oui, oui. Mais c'est un métier dur, hein. C'est un métier dur.
Oui, c'est un métier dur, oui. Mais enfin, quand on aime ce métier, on le fait...
C'est du village de 14 ans, hein, que vous êtes dans le spectacle.
Oui, bah oui, je sais pas. Oui, je sais pas ce que j'aurais fait si j'avais pas fait de spectacle. De toute façon, j'ai toujours décrété, je me suis dit, je ferai du spectacle. Je me suis toujours dit, petit, j'aurai un théâtre, je ferai du music-hall, j'aurai un cirque, parce que j'ai eu un cirque aussi, et je ferai de... J'ai eu un cirque. Donc, j'ai exaucé tout ce que je voulais faire, et voilà, donc... Donc je dis que quand on a une passion, normalement on doit pouvoir la réaliser. Quand on aime vraiment quelque chose, on peut aller au bout, même s'il y a des difficultés, parce qu'on a des difficultés, on en a eu. Hein, ça n'a pas toujours été facile, mais c'était, c'était ce que je voulais. Puis je dis beaucoup dans le livre que. Rien n'est dû au hasard, tout est écrit.
Ça, c'est votre citation favorite,
oui.
Que vous avez reprise à Paul Éluard, hein, je crois.
Voilà.
Voilà. Et il y a une citation aussi, là, que j'ai trouvée dans votre livre, que je trouve assez intéressante. Attendez, je vais la reprendre. Vous écrivez, de nos jours, les théâtres sont tous la propriété de grands groupes qui ont un rapport très lointain avec l'art et la culture. Il fut un temps où nous ne pouvions pas posséder plus de 2 salles. Mmh. Maintenant, c'est open.
Oui. Oui, oui, maintenant, ils ont 4-5 salles. On peut acheter tous les théâtres qu'on veut, quand on a l'argent. Et avant, on ne pouvait pas en acheter plus de 2. Donc, c'était... Mais maintenant, ça a changé. Et tous les théâtres, maintenant, appartiennent effectivement à des énormes groupes qui nomment un directeur artistique, mais qui
qui n'ont rien à voir, en fait.
Non. Non, non, mais de toute façon, notre époque, il n'y a plus rien à voir avec ce qui est écrit dans le livre-là. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que moi, je ne reconnais plus du tout rien de notre époque-là. Les cabarets, il n'y en a plus. On parle du Connétable, c'est un des derniers.
C'est un des derniers.
Le Don Camillo, il vient de fermer. Le Lido, il est fermé. Les musicaux, il n'y a plus de première partie, il n'y a plus rien, il y a les récitals, gens, ils restent une journée. Si on a de l'argent, on peut louer l'Olympia. On ne sait même pas qui y passe. C'est devenu d'une pauvreté lamentable, quoi.
Ah oui.
Lamentable.
Oui. Et vous continuez, parce que vous continuez, pour vous, il n'y a pas de retraite.
Non.
Vous donnez des cours de théâtre.
Je donne des cours, puis je monte des spectacles. Des tours de chant, des pièces. Là, je vais remonter une comédie musicale pour enfants, qui est pour moi qui l'ai écrite, là, c'est que j'ai déjà monté au théâtre de Passy, et qu'on va reprendre là. Et puis, dernièrement, j'ai monté un tour de chant pour Jean-Baptiste Carnoy, au Connétable, donc avec 3 musiciens, et où je lui ai fait chanter. C'est un garçon qui chante de l'opéra, mais là, je lui ai fait chanter de la variété aussi. Je lui ai fait chanter du Mouloudji, du Prévert, du Mireille.
Il faut nous tenir informés pour les dates, hein, parce qu'on en parlera à la radio. Hein.
On va en faire une au mois de septembre au Montmartre Galabru.
Ah oui.
Je vais monter un tour de chant.
Eric, tu m'en parleras, comme ça, vous communiquez entre vous. Comme
oui,
ça,
oui, il continue. Voilà,
je vous présente Guillaume Destrême, vous connaissez ?
Non, mais je suis ravi.
Moi aussi.
Si jamais vous voulez monter des spectacles, vous voyez, avec. C'est un.
Bien sûr.
Il est rodé, hein.
C'est vous qui montez un Prévert, là, non ?
Oui, c'est ça.
Voilà. Qu'est-ce que vous auriez envie d'entendre comme chanson,
entendre, alors, bon, comme chanson, qu'est-ce que j'aimerais entendre ? Rapport avec. Oui, il y en a beaucoup, alors attendez, j'avais même posé un.
Bon, alors on va pas être. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de Dimay, là. On peut entendre Syracuse, pourquoi pas. C'est joli, Syracuse.
Oui, c'est oui, voilà, pas oui.
Hein, ouais, on va écouter Syracuse.
Oui, parce que là, j'avoue, je suis un peu.
Non, il n'y a pas de mal.
Il y en a tellement qui me passent par la tête, je ne sais pas lesquels.
J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand Lama, rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Pays du
Complainte de Vincent, dédiée à Paul Éluard, par Jacques Prévert. À Arles, où roule le Rhône dans l'atroce lumière de midi, un homme de phosphore et de sang pousse une obsédante plainte comme une femme qui fait son enfant. Et le linge devient rouge, et l'homme s'enfuit en hurlant, pourchassé par le soleil, un soleil d'un jaune strident, au bordel, tout près du Rhône. L'homme arrive comme un roi mage. Avec son absurde présent, il a le regard bleu et doux, le vrai regard lucide et fou de ceux qui donnent tout à la vie, de ceux qui ne sont pas jaloux et montrent à la pauvre enfant son oreille couchée dans le linge. Et elle pleure sans rien comprendre, songeant à de tristes présages, et regarde sans oser le prendre l'affreux et tendre coquillage où les plaintes de l'amour mort et les voix inhumaines de l'art se mêlent aux murmures de la mer et vont mourir sur le carrelage. Dans la chambre où l'édredon rouge, d'un rouge soudain éclatant, mélange ce rouge si rouge au sang bien plus rouge encore de Vincent à demi-mort et sage dans l'image même de la misère et de l'amour. L'enfant nu, toute seule, sans âge, regarde le pauvre Vincent foudroyé par son propre orage qui s'écroule sur le carreau, touché dans son plus beau tableau. Et l'orage s'en va, calmé, indifférent, en roulant devant lui ses gros tonneaux de sang, l'éblouissant orage du génie de Vincent. Et Vincent reste là, dormant, rêvant, râlant, et le soleil au-dessus du bordel, comme une orange folle dans un désert sans nom, le soleil sur Arles, en hurlant, tournant rond. Merci.
Alors, donc nous avions aujourd'hui comme invité Christian Laurent pour J'ai la mémoire des planches, où il est question de tous les de votre parcours de tourneur, de comédien et de tous les vedettes des comédiens que vous avez rencontrés.
Voilà.
Et quand on lit ce livre, on sait que vous avez connu Belmondo, Jean Piat, Jacqueline Maillan, Michel Bouquet, Romain Duris, Sacha Guitry, Robert Lamoureux, Jean Le Poulain, Louis Aragon, Robert Hossein, Gina Lollobrigida, Robert Thomas, Annie Girardot, Jean-Claude Brialy, Michel Serrault, Daniel Darieux, etc. Ouf. On se dit quand même... on a quand même envie de découvrir un peu votre bouquin. J'ai la mémoire des planches qui vient de paraître.
Ouais, alors on peut le trouver partout, dans les, enfin partout, non, dans les librairies, il faut le commander. Dans les librairies, sinon à la FNAC aussi, il faut le commander. Ou elle a directement la librairie théâtrale qui est l'éditeur. Et là, on peut le commander et à l'avance. Et puis je vais le signer, donc
il l'envoie
dédicacé, voilà.
Ah, bah, c'est sympa.
Directement à la librairie.
D'ailleurs, moi aussi, j'ai une dédicace. Je suis ravie.
Ah, bah oui, j'avais été la faire là-bas.
Voilà. Merci, Christian.
Merci beaucoup à vous.
Et à une prochaine pour votre prochain spectacle que vous programmez.
Absolument, et merci à vous.
Alors, on va faire un petit entracte musical et nous passerons au deuxième invité, Guillaume.
Ça met un tout petit peu la pression. Hein. Donc, c'est la troisième. J'avais écrit des goguettes. Je ne sais pas si vous connaissez le principe. Hein. Il y en a une sur Misogynie à part de Brassens, c'était Misandrie à part. Il y a eu Les Agios sur l'air de Ne me quitte pas de Brel. Et là, c'est les jeunes d'après Les Vieux de Brel. Avec Michel, toujours Brel.
On va essayer de faire un peu de musique.
Tu fais, on y va ?
Oui. 3, 4. Les jeunes
ne parlent plus, ils s'envoient des textos en fumant des bédos. Même pauvres, ils jouent les riches, ils n'ont des illusions et gardent leur cœur pour eux. Chez eux, ça sent la clope, le joint et l'alcool. Il y a des cadavres partout. Que l'on vive en appart, on vit tous dans un squat quand on y est jusqu'au cou. Est-ce d'avoir trop bu qu'ils se marrent pour un rien alors que c'est même pas drôle? Ou d'avoir trop fumé, que leurs yeux sont fermés, sans être fatigués. Et s'ils tremblent un peu, est-ce d'avoir essayé un autre truc prohibé? Qui tourne dans le salon, ça dit oui, ça dit non, et parfois c'est tenté. Les jeunes ne rêvent plus, leurs rêves sans poussière, leurs guitares sont rangées. Le meilleur pote est mort, la bidouze du jeudi ne les fait plus marrer. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, complètement raides, c'est pour dire sous la lune. C'est pas ça qu'il voulait, c'est pas comme ça qu'on crée. Et le temps d'un bon trip, oublier toute une heure, qu'ils vivent dans leur rempart, qu'ils vivent dans leur salon, comme tous ces petits cons, et que ça les attend. Et voilà.
Merci.
C'est pas les plus
rigolotes. Merci beaucoup. Vous allez faire un disque
hein,
bientôt.
Ah. Très bien. Beaucoup.
Alors, Guillaume, parce que c'est vrai, le temps passe. Alors, ça a bien débuté, allez, ça y est.
Oui, on a fait la première jeudi.
La première jeudi ?
Ouais.
Ouais. Donc, c'est La Crosse en l'air.
Alors oui, c'est le texte de Prévert, La Crosse en l'air, que nous avons un peu modifié le titre, histoire de rester finalement fidèle à Prévert, parce que Fidèle, joli lapsus, Prévert a pris la peine, de ce qu'il ne fait pas souvent avec ses textes, de le dater, de 1936. Et c'était une précision, je pense, qui est nécessaire.
Oui.
Ce texte a été écrit en 1936. Donc
il y a un contexte.
Voilà, et au moment même des événements qu'il relate.
Ouais, voilà. La guerre d'Espagne.
C'est ça, la guerre d'Espagne, Mussolini en Éthiopie. Enfin, en gros, les plaisirs de la montée de l'extrême droite dans l'Europe de l'époque.
Voilà, exactement. Et c'est violent quand même, hein ?
Plutôt, oui.
C'est bizarre parce que y a des passages très violents, très virulents,
oui.
Et d'autres hyper poétiques, quoi.
Oui,
comme on a presque envie de dire un ange passe. C'est à la fois. Il y a des extrêmes, hein. C'était quelqu'un qui pouvait être très rude.
Ah oui, on les gens qui connaissent Prévert le savent, mais c'est vrai qu'on a souvent l'idée de l'image de quelqu'un d'assez gentillet, d'assez paisible. Et là, il pousse véritablement un vrai coup de gueule, ouais.
Voilà. Alors, c'est un veilleur de nuit.
C'est ça, c'est un veilleur de nuit qui, à un moment, s'endort et puis se dit que peut-être il pourrait aller voir Il pourrait aller voir le pape, quand même, à Rome, pour lui dire un peu ce qu'il pense.
Ses quatre vérités.
Pour lui dire ses quatre vérités, parce qu'il serait quand même bon que l'Église, qui à l'époque avait quand même sa sacrée fonction, enfin, qui avait un certain poids, il serait
ben,
bon.
Là encore,
il serait bon.
Hein.
Je pense que la moins, mais...
Moins, mais...
Mais,
ouais.
tant mieux. Mais
avec les médias, tout ça, si quand même. Hein.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que moins d'un an après l'apparition de ce texte, alors je ne pense pas qu'il n'y a pas de cause à effet, mais Pie XI a effectivement condamné le fascisme.
Ah, quand même.
Après ce texte.
Ah oui. Ce...
En 1937.
Non, je ne pense pas.
Je ne pense pas. Mais ça souligne en tout cas la pertinence qu'il pouvait y avoir à,
il y a peut-être des
en tout
ondes,
cas, à écrire
là,
ce texte.
Ah,
voilà. Il y a peut-être des ondes aussi, oui, probablement.
Pourquoi pas, hein.
Peut-être
il y a des ondes invisibles, parce que c'est invisible les ondes,
voilà.
Mais ça existe. Voilà. Mmh. Et en fait, c'est un texte que vous avez découvert comment? Alors
moi, je l'ai découvert, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui l'ont découvert, dans la version qui avait été enregistrée, alors je pense peut-être dans les années 60, par les soins de Jacques Canetti, les disques Canetti, par Serge Reggiani.
Ah oui.
Donc Reggiani avait fait un enregistrement assez brillant, mais quand on commence à avoir l'intimité du texte, on s'aperçoit que bon, il l'a travaillé, mais il l'a lu. Hein, que, mais enfin bon, moi j'avais découvert ce texte par parce que c'est un texte en fait que bizarrement les gens ne connaissent pas peu, alors qu'il est dans Parole.
Oui, je sais.
Il est dans Parole, mais on le saute tout le temps parce que Parole, la lecture de Parole induit un certain rythme de lecture.
Et puis,
et quand on arrive à ce texte,
il est très long.
C'est le texte le plus long, d'ailleurs, que Prévert.
Il est très long et peut-être un peu répétitif, je ne sais pas.
Mais c'est-à-dire qu'on a, à la différence des autres textes qui sont plus brefs, on met un peu plus de temps à entrer dedans. Et puis, comme je disais,
d'ailleurs, c'est feuilleton, c'est marqué feuilleton.
C'est marqué feuilleton. Alors ça, c'est pour une autre raison. C'est parce que ça a été édité en deux parties initialement, avant d'être édité dans.
Mais c'est vrai que ça fait partie des textes les plus longs de Parole. Hein.
C'est le plus long. Si on met à part les scénarios de films, bien sûr, c'est à ma connaissance, et je pense que je ne me trompe pas, je me suis assez penché sur la question, c'est le texte le plus long de Prévert.
Ah oui. Et donc, vous l'avez remanié un petit peu pas remanié, mais je veux dire, pour le spectacle, il a fallu faire des coupures.
Non, il n'y a aucune coupure.
C'est intégral.
C'est intégral. Il y a à un moment une liberté qui est prise, c'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de dire un mot, je le joue. C'est tout.
Quel est ce mot.
Non, si on voit le spectacle, on comprend. Mais on l'entend. On l'entend, même si on ne l'entend pas. Enfin,
d'accord. Ouais.
Et puis le début est un peu. Il y a un petit ajout au début, puisque le début du texte fait référence au titre. Je ne pouvais pas décemment commencer le texte en annonçant le titre, ça aurait eu quelque chose. Donc on a trouvé un subterfuge pour que le début du texte réponde à autre chose, mais qu'on retrouve un peu une équivalence. Mais sinon, le texte, est, j'allais dire sans changer une virgule, non, parce qu'il n'y en a pas. C'est comme souvent dans les textes de Prévert.
Comment on fait quand il n'y a pas de virgule, alors, quand on est un comédien,
C'est
la respiration.
Comme on fait beaucoup de choses, on va les chercher, on les invente, on les suppose.
Et puis c'est votre respiration.
Voilà, c'est ça. Il nous laisse cette liberté, on la prend et on s'empare du texte.
Ah oui. Et vous êtes tout seul
sur scène. Je suis seul sur scène, oui.
Ah oui, oui. Vous n'ennuyez pas.
Oh non. Le texte, ça serait malheureux de s'ennuyer avec un texte pareil.
Non, mais enfin, je veux dire... vous avez quand même quelques... on n'est jamais complètement seul sur scène. Déjà, il y a le public.
Oui.
Et puis, il y a l'atmosphère, il y a les objets, peut-être. Je n'ai pas vu le spectacle, c'est pour ça que
il n'y a pas beaucoup d'objets, puisque ce qui est formidable, entre autres, ce qui est fabuleux dans ce texte, d'ailleurs, moi, quand j'ai découvert ce texte, j'étais très jeune, et ça m'avait d'ailleurs plus touché que le fond, finalement, assez polémique et pamphlétaire. Ce qui m'avait particulièrement attaché à ce texte-là, quand je l'avais découvert, c'est la capacité qu'a Prévert dans ce texte à recréer par le verbe l'errance du rêve. On est vraiment dans un rêve où on passe d'une idée à une autre, du coq à l'âne. On est vraiment
rêve éveillé.
C'est un
genre de rêve éveillé.
C'est un personnage qui s'invente, qui construit son histoire. On est vraiment dans le c'est assez remarquable la façon dont il arrive à recréer par l'écriture l'errance de ce que peut être un rêve.
Ah ouais. Et vous déambulez sur scène, un petit peu, vous bougez, je veux dire.
Oui, c'est pas une lecture.
Non, parce qu'en
même
temps, vous... Oui, j'imagine. Non. C'est la première fois c'est très rare quand je demande à un comédien de venir sans avoir vu le spectacle, mais justement, ça me permet d'imaginer. Ouais. Mais bon, je vous connais déjà.
Mais Breton considérait ce texte comme, pour lui, avec un autre texte de Benjamin Perret, j'ai oublié le titre, comme pour lui c'était le sommet du surréalisme.
Ah oui, d'accord.
On peut reprocher beaucoup de choses à Breton, mais en matière de surréalisme, il touchait un peu sa bille.
Il n'y avait pas de bande-annonce de votre spectacle. J'ai pas trouvé la bande-annonce.
Non, il n'y en a pas.
Bon, mais c'est pas grave.
Non, on a essayé de faire...
Ça, une... C'est vous qui allez faire la bande-annonce, là, bah, en lisant un extrait.
Alors, tranquillisez-vous, là, je connais le texte, mais là, je vais le lire, parce que le fait
c'est
de
pas
être...
C'est pas le même contexte que voilà. Sur scène, donc je comprends très bien
j'ai
que
pas
vous
mes appuis,
et que vous ayez besoin du texte sous
donc,
les yeux.
Donc, je vais quand même m'aider du texte. C'est un moment où, au début du spectacle, c'est précisément le moment où le veilleur de nuit bascule dans le rêve. Le veilleur de nuit se rendort. Le veilleur de nuit est pris par le rêve. Rêve de silence. Rêve de bruit. Rêve. Rue de Rome, le ruisseau coule doucement. Dans son rêve, le veilleur de nuit l'entend. Rêve de ruisseau. Rêve d'eau. Rêve de rue. Rêve de Rome. Rêve d'homme. Rêve du pape. Rêve de Rome. Rêve du Vatican, rêve de souvenirs, rêve d'enfant. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Le veilleur de nuit se réveille en répétant parfaitement, parfaitement. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Il se réveille, il se lève, il se lave les dents, répétant Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Et le voilà, la lanterne à la main, le voilà qui suit son petit bonhomme de chemin. Son petit bonhomme de chemin le mène à Rome, comme tous les autres chemins. Et parfaitement, parfaitement, à Rome, devant le Vatican, parfaitement. Pauvre veilleur de nuit, le voilà perdu en plein jour au beau milieu d'une ville peuplée de gens qui ne parlent pas la même langue que lui. Triste voyage. Soudain, il voit une petite fumée qui monte dans le ciel au-dessus des maisons. Alors il crie au feu, mais un Italien lui explique en italien que toujours il y a une petite fumée qui monte dans le ciel quand ton nouveau pape est élu. Le veilleur de nuit comprend rien. Il hoche la tête. Et le soir tombe sur la campagne électorale à Rome. Le pape est élu. Aux quatre coins cardinaux, il y a des cardinaux qui font la gueule en coin. Ils ne seront pas papes. Tout est foutu. C'est alors qu'au balcon, sérieux comme un pape, paraît le pape, entouré de ses sous-papes. Il a sur la tête la coiffure à trois cornes appelée tiare, et il étend la main. La foule se prosterne. La foule cherche sa salive. La foule trouve sa salive. La foule crache par terre. La foule se roule dans son crachat. Le pape fait avec sa main de pape un geste de pape. On ferme la fenêtre. Et la foule s'en va par la ville en répétant « Ça y est, nous l'avons vu, nous l'avons touché du regard. »
Ah ouais, c'est pas mal. Tiens, ça me rappelle Abbé Mousse Papam, là, avec
on peut y penser, Décoli, on peut y penser, effectivement. Ouais. Ouais.
Ah, mais c'était documenté, hein, Prévert, hein, quand
ah, oui,
même,
oui, oui.
Hein, avant d'écrire son pape.
Ah, mais il était bah, paraît-il, hein, encore une fois, mais je ne l'ai pas connu. Mais il était, paraît-il, très calé sur tout ce qui était religieux, les saints, toutes ces trucs-là. Il était extrêmement calé là-dessus. Il adorait ça.
Les
saints Sulpicerie, il adorait ça.
Bon, ben ça donne envie d'aller voir un spectacle.
Mais, j'espère.
Et donc, c'est au Théâtre de l'Essaillon.
Théâtre des Saillons, jusqu'à la fin du mois, les mercredis et jeudis à 21h. Voilà.
Et je crois que, donc Théâtre Essaillon, 5 rue Pierre-Aulard,
6 rue Pierre-Aulard, oui.
C'est en face de Beaubourg, hein,
voilà.
Ça donne dans la rue du Renard, et c'est en face de Beaubourg.
Voilà.
Donc, jusqu'à la fin du mois.
Jusqu'à la fin
seulement.
Du mois. Oui, oui, on fait. Parce que je reprends aussi en alternance le spectacle que vous aviez vu l'an dernier. Un pont trop près.
Un pont trop près.
Voilà,
ouais.
Qui se joue aussi. Mais ça, c'est autre chose. C'est une comédie que j'ai mise en scène et un peu écrite aussi.
Ouais.
Mais
dites-le quand même.
Oui, oui. Donc ça se joue également à l'Essaillon tous les jours. Les samedis. Vendredi, samedi à 19h15. Donc c'est pour ça que comme on joue les deux spectacles, on a ramassé tout ça en peu de représentations.
D'accord. Alors pas sur les pompes, c'est entre
un pont trop près.
Un pont trop près. Ouais. Bon. C'est des histoires de suicide manqué.
C'est ça.
Mais de mélancoliques qui veulent se suicider.
De personnes et qui arrivent sur un pont pour se suicider en même temps et qui ne se connaissent pas.
Et ils se retrouvent dans les bras l'un de l'autre.
Pas tout de suite.
Pas tout de suite, ils se retrouvent à la fin.
Je ne vais pas le dire.
Parce qu'on peut imaginer les fins. Voilà. Donc, pas d'Avignon cette année ?
Non, pas d'Avignon.
Mais vous n'avez pas un collègue qui fait Avignon ?
Oh, ben j'en ai plein, oui.
Oui, attendez. J'en ai plein. L'Artigas.
Jean-Baptiste Artigas.
Oui, Jean-Baptiste, il fait pas Avignon.
Alors, il fait pas son Camus, là, qu'on a fait ensemble d'ailleurs. Ouais. Mais il fait un spectacle de jazz, puisqu'il est pianiste de jazz, qui s'appelle Stormy Weather.
Ouais.
Voilà.
D'accord.
Voilà.
Il n'était pas venu ici pour cette année
Possible.
Il est venu ici aussi pour présenter la pièce.
C'est possible, oui.
Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais contente de vous recevoir.
Content d'être là.
Voilà.
Donc.
Et puis, à la revoyure.
Très bien.
À la revoyure.
Merci beaucoup.
Voilà. Et à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, nous aurons une organisatrice de spectacle. À la cartoucherie de Vincennes festival Nomad House, qui s'installe quelques jours à la cartoucherie de Vincennes, qui est en relation avec le musée de l'immigration, et Michel Seul, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un musicien, et il y aura un hommage à Tim Lazer, qui était un musicien et qui venait nous accompagner, nous les poètes, pendant qu'on disait des poèmes, ils improvisaient des musiques. Maintenant, nous avons des remplaçants, Sophie et Michel, qui viendront, qu'on embauche comme musiciens, pendant qu'on dira des poèmes, ils seront là pour nous suivre. Voilà. Voilà. Alors, à la semaine prochaine.
T'as bien capté, Buvois, Dur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, Dur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Dur Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, Dur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, Dur Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4 heures,
baby.
Faut pas tromper, les flingues vont sortir des holsters.
Bien capté, Bulle Noire, Dur Libertaire,
Radio Libertaire.
On va parler de polar, Dur Libertaire, Radio Libertaire.
On parle de 38, de calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire,
Radio Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et eh bien aujourd'hui c'est une spéciale influenceur-influenceuse à laquelle nous vous convions avec notre invitée d'aujourd'hui, Emma Ferré. Bonjour Emma.
Bonjour.
Qui vient de publier, enfin qui vient de publier, non, c'est, ça fait quelques mois qu'elle a publié aux éditions Albin Michel, pardon.
Deux mois.
Deux mois, son premier roman, Et Mirage.
Tout à fait, c'est ça.
Bon alors, la jeune Emma Ferré s'est plongée, journaliste de son état.
Journaliste.
Et elle s'est plongée dans ce monde des influenceurs et des influenceuses. Mais du coup, en traitant les influenceurs et les influenceuses, tu as débordé du cadre et tu t'es attaquée à plein d'autres choses un peu dramatiques.
Bah, tout est politique et tout est société. Donc oui, on parle des influenceurs, on parle forcément de plein d'autres choses, du monde dans lequel on vit et des situations dans lesquelles les gens se retrouvent.
Bon, alors avant d'attaquer le roman, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi, une jeune fille qui est une jeune fille de bonne famille, on va dire.
Oh, pas tant.
La famille Ferré. Ça nous rappelle quelque chose.
C'est une famille de voyous.
C'est une famille de voyous. Fille de Caryl Ferré, est-ce que c'est compliqué d'être la fille de Caryl Ferré?
Ah bah non, je souhaite à tout le monde de l'être.